Toujours bon de célébrer notre Dieu par des cantiques, n'est-ce pas? Des prières, des actions de grâce. La musique est certainement une belle façon de laisser monter des louanges à ce Dieu si grand, digne de toute louange. Et on rit, on se réjouit devant le Seigneur de ce que nous avons ici, une congrégation qui chante avec joie. Il y a des écrits hébraïques, vous savez, qui disent qu'Abraham va être assis aux portes de l'enfer. Il ne sera pas dans l'enfer. Il va être assis aux portes de l'enfer et il va empêcher tous les Juifs d'y entrer. Ils ont une alliance là, alors tous les Juifs doivent être sauvés. Ils vont tous être sauvés. Mais je pense qu'on va avoir une chorale aussi, aux portes du ciel, qui vont chanter le Seigneur de la joie, avec Diane et Danny, n'est-ce pas, le Liberace de l'Église réformée baptiste, si je puis dire. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 5. Et nous allons lire ce matin les versets 1 à 8 du chapitre 5. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur l'Épître, ça avance bien. J'aimerais quand même qu'on se souvienne d'où on vient, afin qu'on puisse mieux savoir où on s'en va. Rappelons-nous que nous avions divisé cette Épître-là en quatre portions, et qui nous disait effectivement, en quelque sorte, les grands thèmes qui avaient cours tout au long de cette belle lettre-là, une lettre dite aux Éphésiens. On sait que vraisemblablement, c'était plus une lettre circulaire qui circulait dans les églises d'Asie mineure et que Tychique, qui était le facteur de l'époque, lorsqu'il arrivait dans une ville, écrivait le nom de la ville ou de l'église où c'était livré. Et on s'est adonné, comme dirait l'autre, à la voir, nous, celle où c'était aux Éphésiens. Quoi qu'il en soit, c'était tout à fait correct et ça s'adresse également à nous. Donc, je vous rappelle que nous en sommes dans la troisième partie de cet épître-là. Je vous rappelle que la première partie, tout simplement, nous parlait de la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Parce qu'on ne peut pas former une société avant d'être né, avant d'avoir reçu la vie en Christ Jésus. Et la première partie de l'épître, effectivement, met beaucoup d'emphase sur cette grande réalité, à quel point Dieu a développé, a manifesté sa puissance pour que nous puissions recevoir la vie. Et ça, ça s'étend bien sûr du verset 3 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Une fois maintenant qu'il s'est donné des gens qui ont la vie, qui leur a donné la vie à plusieurs, ils se forment une société. Il les met ensemble, ces gens-là. Il ne les laisse pas comme des gens errants, ça et là. Il les met ensemble dans ce que nous appelons l'Église et dans ce que nous appelons la nouvelle société que Dieu a créée, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21. Donc, l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est négociable. Ce n'est pas quelque chose que je prends ou que je laisse. Lorsque je reçois la vie, je suis placé dans cette société en Christ Jésus qu'on appelle l'Église. Je n'ai pas le choix, quand je ne suis pas sauvé, d'être dans la société d'Adam, mais quand je suis sauvé, je suis dans la société du Christ Jésus. Et cet après-midi, nous continuons encore dans cette troisième partie qui nous parle des nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société. Ça se membranle au chapitre 4, verset 1, et ça va aller jusqu'au chapitre 5, verset 21. Et ensuite, nous verrons dans le chapitre 21, dans le chapitre 5, verset 21, jusqu'au 6, 24, les nouvelles relations, donc, dans lesquelles Dieu nous a introduits. Donc, aujourd'hui, les nouveaux standards. On poursuit dans cette veine-là. Et dans la portion d'aujourd'hui, de cet après-midi, l'apôtre se concentre sur deux péchés. C'est important d'avoir le contexte, n'est-ce pas? On n'est pas en train de dire, ben là, on va avoir une prédication sur le péché. C'est qu'on a une prédication qui nous présente toute l'épître comme l'Esprit l'a inspiré, et on voit la place de la grâce, on voit la place de l'indicatif, on voit la place de l'impératif qui prennent place, donc, dans ce grand projet de rédemption. Alors, l'apôtre nous parle de deux péchés que Dieu aborde, deux péchés qui radicalement lui puent. Au nez. Enfin, le péché lui pue au nez, point la ligne. Mais qui peuvent quand même céder le pas à un parfum qui lui soit agréable. Et on a ces deux péchés-là au verset 3, la convoitise et la cupidité. La convoitise et la cupidité. C'est large comme concept, hein, la convoitise et la cupidité. On va essayer de développer ce texte-là en trois points. On va penser d'abord à nous rappeler notre identité. Il nous est dit que nous sommes les enfants de Dieu. Dans un deuxième temps, à veiller sur notre pureté. Et troisièmement, à affermir notre sécurité, parce que nous avons une sécurité en lui. Alors commençons donc par le premier point, les versets 1 et 2. Rappelons-nous notre identité. Éphésiens chapitre 5 commence avec une injonction des plus surprenantes dans le Nouveau Testament. Devenez les imitateurs de Dieu. Avez-vous déjà essayé ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, j'ai commencé à imiter Dieu aujourd'hui. C'est pas simple d'imiter Dieu. On peut imiter bien des gens, on peut imiter bien des choses, mais imiter Dieu, on vient de tomber sur un nœud, comme dirait l'autre. C'est le seul endroit dans toute la Bible où nous retrouvons ces paroles-là. Bien sûr, on retrouve le concept d'imitation qui est très fréquent dans la Bible. On le retrouve pour les églises. Paul va leur dire « Soyez mes imitateurs » et il ajoute timidement « Comme je le suis moi-même de Dieu ». Mais ici, le concept d'imitation, c'est pour imiter Dieu. Et c'est ici qu'elles invitent à un standard qui, a priori, nous apparaît tout à fait inatteignable, imiter Dieu. Être les imitateurs de Dieu, c'est certainement pas une mince tâche. Comment est-ce possible d'imiter celui qui est au-dessus de tout autre? Celui qui est infiniment élevé au-dessus de nous, le Dieu souverain de l'univers. À première vue, on est devant une impossibilité, de sorte que Paul semble verser littéralement dans l'utopisme. Est-ce que c'est le cas? Semble-t-il que non, puisqu'il nous l'a écrit. L'expression « imiter » veut dire ici « reproduire dans nos vies les attributs divins ». On parle bien sûr des attributs communicables. Il y a des attributs qui sont non communicables en Dieu, mais « reproduire dans nos vies les attributs divins ». Les attributs, ce n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est ce que l'on est. C'est ce que nous sommes. Ça fait partie de notre peau. C'est nous, en quelque sorte. C'est notre nouvelle vie que Dieu nous a donnée et qui continue d'éclore et de s'émanciper de plus en plus. Et on ressemble de plus en plus, donc, à la personne du Christ Jésus quand on grandit dans la sanctification. Donc, c'est Dieu qui, en quelque part, se reproduit en nous. L'exemple évident, bien sûr, c'est un fils qui imite son père. Le cas classique. Des fois, ça fait plaisir, des fois, ça nous fait honte un peu. On voit nos propres défauts. Quand il imite nos péchés, quand il imite nos carences, on ne se sent pas toujours à l'aise là-dedans, mais des fois, c'est flatteur. Les positions qu'ils prennent, des fois, ils se tiennent un petit peu comme nous, on se tient. Le vocabulaire qu'ils emploient, c'est très amusant. Ils deviennent imitateurs de leur père. Il y a les filles également qui font la même chose, souvent de fois, ils deviennent les imitateurs de leur mère. En quelque sorte, le père devient une espèce de modèle, un gabarit pour son enfant, un modèle à reproduire, un vis-à-vis important, vous savez, parce que c'est la référence pour l'enfant. Et on sait comment ça fonctionne, comme on dit souvent, quand les enfants sont petits, ils pensent que papa c'est tout. Quand ils sont grands, ils pensent que papa c'est rien. Et quand ils deviennent plus vieux un peu, ils disent papa c'est un petit peu. Mais c'est comme ça que ça se joue. Voilà. Alors, on peut penser également à un couple. Il arrive dans certains couples, les couples en viennent à se ressembler beaucoup, à penser de la même façon en quelque sorte à s'interimiter. Qui plus est, la réalité est la suivante. On apprend davantage par imitation que par instruction. On va dire à quelqu'un, « Viens, je vais te montrer comment faire. » Ça a beaucoup plus d'impact que de dire « Je vais te dire comment faire. » « Viens, je vais te montrer comment faire. » L'imitation nous donne un avantage très, 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 très marqué dans la pédagogie, dans l'enseignement. Cependant que pour devenir les imitateurs de Dieu, il faut infiniment plus qu'un modèle. En raison du caractère ultime, insigne et unique de Dieu, il est tellement différent de nous. Il est le Dieu tout autre, dit-on en théologie. La base de l'exhortation de Paul, il nous faut un modèle, il nous faut plus qu'un modèle pour imiter Dieu. Et la base de l'exhortation de Paul n'est pas « Ayez de la volonté, soyez fermes et faites des efforts pour imiter Dieu ». Non, ce n'était pas cela. Bien sûr que tout cela est présent, mais ça ne représente pas le fondement de son exhortation. Le fondement de l'exhortation de l'apôtre ici, c'est que nous avons reçu une puissance préalable qui nous permet progressivement, et je dis bien progressivement, de désamorcer nos impulsions pécheresses. Et on parle souvent de sanctification, et on le fait à juste titre. Nous sommes appelés à la sanctification, même si pour les vrais croyants, nous sommes déjà sanctifiés. La sanctification, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, on l'a déjà reçu. Le Christ a été fait pour nous, sainteté. Et parce qu'il a été fait pour nous sainteté et que nous sommes justifiés de position, nous sommes appelés à devenir saints également dans notre condition. Donc, l'apôtre dit à devenir saints comme Dieu, à devenir les imitateurs de Dieu. Devenir, ça veut dire quoi? C'est un cheminement à devenir. Ce n'est pas dans l'immédiat. Et nous vivons dans un monde d'instantané et de micro-ondes, hein? Où il faut que ça arrive vite et tout de suite, et même un peu avant si possible. Et là, la sainteté, ça n'arrive pas tout à fait comme cela. Alors, vous entrez dans les librairies chrétiennes et vous vous butez à une tonne de livres qui vous parlent de sainteté, qui vous parlent de voici ce qu'il faut faire, des do's and don'ts, hein, et voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, et voici la recette pour en arriver là. C'est de très, très peu d'utilité, sinon de nous garder condamnés et de faire en sorte qu'on se sent inférieur et incapable d'être à la hauteur, d'être un enfant de Dieu. Et il est important de bien comprendre le concept, donc, de sanctification. Donc ici, il n'est pas question d'une simple moralité, parce que l'enseignement d'une nouvelle moralité ou d'une moralité plus élevée n'a jamais changé qui que ce soit. Si l'enseignement de la moralité était suffisant pour transformer les gens, on n'aurait qu'à distribuer des copies des 10 commandements par les portes ou les mettre dans le publisac ou les publier dans le journal, hein, et on aurait une terre extrêmement sainte, ce qui est très très loin d'être le cas. Ça nous rappelle un élément important, un élément fondamental en théologie, et je reviens là-dessus, à savoir que l'indicatif doit toujours précéder l'impératif. L'apôtre ne nous dit pas « si vous devenez les imitateurs de Dieu, vous allez devenir ses enfants ». Non, il nous dit « parce que vous êtes ses enfants, soyez les imitateurs de Dieu ». Ça nous rappelle le verset de Galates 5 qui nous dit « parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils ». Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité par un bon comportement. Lorsqu'il a sorti les enfants d'Égypte, « Je vous sors d'Égypte, après vous allez être mes fils. » Non, il a appelé son fils hors d'Égypte. On est fait enfant d'abord, et ensuite on sort d'Égypte et on grandit dans la sanctification et dans la ressemblance à notre Dieu. Alors, l'indicatif doit toujours précéder l'impératif. Ce qui a été fait pour nous, l'indicatif, c'est ça l'indicatif. Ce qui a été fait pour nous donne lieu à un impératif de ce que nous allons faire pour lui et jamais avant. Comme je disais tout à l'heure, les séminaires, les livres ne manquent pas pour nous parler des choses à faire. La Bible elle-même nous en parle de beaucoup de choses à faire, mais toujours dans le bon contexte. Alors, c'est symptomatique de notre culture contemporaine qui est devenue impatiente. On veut que les choses arrivent rapidement, on s'impatiente, hein, et ce qui est substantiel, ce qui demande un gros effort, un effort prolongé, c'est difficile d'y persévérer. Tout le monde est capable d'un très très bon début. La persévérance, c'est une mouvance très différente. Persévérance, on appelle ça la persévérance des saints, mais c'est la persévérance de Dieu avec les saints littéralement. C'est intéressant dans le grec parce que les mots de conduite, les mots de sainteté sont au pluriel. C'est-à-dire que toutes les sphères de notre vie sont incluses dedans. Et c'est bien là le motif de la sanctification. Jamais une conduite morale, jamais une conduite éthique est une fin en soi parce qu'une bonne vie n'est pas une fin en soi. On est bien content si nos enfants mènent une bonne vie. Mais s'ils ne sont pas sauvés, vous savez, on ne sera pas content très, très longtemps. Hein? On va être content pendant un certain nombre d'années, ça va être tout. Hein? Il faut aller infiniment au-delà d'une bonne vie. Hein? Toujours décrite en termes d'espérance bénie. En théologie, donc, on dit l'impératif moral, suit toujours l'indicatif eschatologique. C'est toujours ce qui a été fait pour nous avant de savoir ce qu'on va faire pour Dieu. Quand j'étais petit, remarquez que je ne suis pas encore très grand, mais j'ai déjà été plus petit que ça. Mon papa, quand on est dans mon lac Saint-Jean natal, comme on dit souvent, vous voyez, à l'occasion, le travail était rare et les parents allaient travailler dans le bois, ils allaient bûcher. Il y en a plusieurs peut-être qui n'ont pas connu cette culture-là. Moi, quand j'étais très petit, je l'ai connu. Ensuite, mon papa a trouvé un travail normal, là, et il était parti souvent, et les papas ne revenaient même pas pour les fêtes, hein, parce que c'était loin dans le bois, il n'y avait pas toujours le moyen de transport nécessaire. Mais mon papa, qui était un bon papa, lui, il revenait. Et on savait qu'il revenait. Et pour une raison ou pour une autre, ma maman le savait avant qu'il vienne. Je ne sais pas si elle recevait un message quelconque. Et elle nous le disait. « Papa s'en vient. » C'est toute une fête. T'es quatre gars chez nous, mais j'étais le plus jeune. On est tout énervés. « Papa s'en venait. » Ça, c'est un bel indicatif. « Papa s'en venait. » Et là, on tombait dans l'impératif immédiatement. On était gentils, on chicanait pas, on se bagarrait pas, on voulait se faire beau. « Papa s'en venait. » Hein? Bon, c'est une caricature, mais vous comprenez qu'il y a un indicatif quelque part qui nous amène à agir d'une certaine façon. Notre Sauveur qui nous a aimés, qui nous a donné une nouvelle vie, revient. Alléluia! Et peut-être plus vite qu'on pense, vous savez. Il revient, et ça nous réjouit très grandement, et ça nous motive à vivre pour lui. Alors, on n'est pas là à dire, ben, OK, je vais me sortir une grande liste avec des règles à suivre et des règles à ne pas suivre. On veut vraiment bien se comporter, devenir son imitateur dans l'attente de son retour prochain. Par l'œuvre de Christ nous avons été rendus différents. Un chrétien devrait être différent. Alléluia. Ça me rassurait beaucoup. Un chrétien ne doit pas être bizarre. On est assez bizarre comme cela. Hein? On n'essaie pas d'être bizarre. Mais un chrétien doit être différent. Vous savez ce que Spurgeon disait à sa congrégation? Lorsque vous vous promenez dans les rues de Londres, vous représentez Dieu. C'est pas n'importe quoi. Vous représentez Dieu. C'est ce qu'on représente. On représente notre Père. On représente Dieu. Le pasteur André Pinard, qui était à Gatineau, me racontait, quand il était à Drummondville avec le pasteur Urtubise, je ne sais pas s'il y a des anciens qui l'ont connu, pasteur Urtubise. Monsieur Urtubise est toujours habillé à quatre épingles. Toujours. 7 jours par semaine. Cravate, il disait, je représente Dieu. C'est beau quand même. C'est une belle conscience qu'il avait. Il représente Dieu. Je ne vous dis pas, vous devriez tous être en cravate, mais vous voyez, il était conscient qu'il représentait quelqu'un de vraiment important. « Je représente Dieu », disait-il. Lorsque j'étais pasteur à Granby, plusieurs années, j'étais de tendance un peu arménienne à ce moment-là. J'étais assez nouveau converti de mon premier pastorat. Et je croyais qu'il y avait seulement 2 messages dans la Bible. Le premier, c'est un message de salut, et le deuxième, c'est un message de sanctification. Sauf que je l'ai sanctifié à moi-même. C'est un peu difficile, hein? On ne peut pas faire ça nous autres-mêmes. Alors, c'est des messages de grande condamnation. Mais un jour, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je suis tombé sur un livre de William Morris, un livre tout à fait banal qui s'intitule « Publier sa justice ». C'est un livre où il y a toutes sortes d'illustrations dedans, et où on voit vraiment le salut illustré avec des petits dessins. Et j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais demandé à une fille à l'école biblique où j'étais de me refaire les dessins et j'avais présenté ça dans mon église. Et lorsqu'on est arrivé, n'est-ce pas, à la question de la transaction, lorsque Jésus prend notre place, alors c'est illustré avec des cartes de visite. Là, au Québec, on dit des cartes d'affaires, mais la vraie expression, c'est des cartes de visite. Là, il y avait un changement de carte, vous voyez. Hein, Jésus prend notre carte de visite et nous, on prend la sienne. Et ça avait beaucoup, beaucoup frappé. Les gens de l'Église, ça me fait frapper à quel point ça les avait frappés. Il y en a même un qui est devenu pasteur par la suite, et vous le connaissez peut-être, c'est Michel Gauvreau, qui est pasteur dans le bout de Vaudreuil. Ça va être une grande bénédiction. Vous voyez, quand on comprend l'indicatif moral, l'indicatif eschatologique, on comprend les capacités de l'impératif, mais pas avant. Si on veut aller par nos propres forces, si on veut devancer, les choses, on n'y parviendra jamais, sinon qu'être frustré, se sentir condamné et se dire « le christianisme, c'est pas pour moi ». La vie chrétienne, ce n'est pas une direction par la loi, mais par l'amour. Et comment s'exprime cet amour? Sinon par un désir de vivre selon la loi. Amen. Mais on ne commence pas en disant « je vais suivre la loi ». Non, j'aime le Seigneur. Comment est-ce que je peux t'aimer, Seigneur? Ah ben je le sais, je vais suivre ta loi. Comment est-ce qu'on aime nos conjoints, nos conjointes? Hein? On sait ce qu'ils voudraient avoir et on essaie de leur procurer par des petites surprises. Voilà. Jean 14, 15 dit, « Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. » Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, les versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. » À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Premièrement, l'amour de Christ est un amour qui pardonne. C'est un amour qui pardonne. Puisque Dieu le Père nous a pardonnés par Jésus-Christ, par l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes, réciproquement, hein, se pardonner mutuellement et pardonner à autrui. C'est la nature même de l'amour que de pardonner. Il n'y a aucun amour qui vit dans la rancœur, dans l'amertume. Ce n'est plus de l'amour. L'amour bannit cela, chasse cela de son terrain, chasse cela de son cœur. Le lien entre le pardon de Dieu pour nous et notre pardon à l'égard des autres est très important et c'est seulement par la réalisation que nous sommes nous-mêmes pardonnés que nous sommes libres de pardonner aux autres dans l'amour. Ça prend beaucoup de liberté pour pardonner parce que dans l'esclavage de nos péchés, on est aussi esclavage de l'amertume, hein? On est esclavage de la haine. On est esclavage d'en vouloir aux autres. C'est un esclavage, ça aussi. Si on veut devenir libre, c'est en recevant le pardon du Christ. Lorsqu'on est rendu libre à cet effet-là, on devient libre également d'apporter le pardon à autrui. L'être humain est en besoin désespéré de pardon. Les gens vivent leur quotidien avec un sentiment de culpabilité qu'ils tentent de réprimer. Parlez-en au psy, parlez-en au coach de ce monde. Puis, hein, il y a à peu près un coach à chaque deux portes de maison aujourd'hui. Là, hein. Les gens se cherchent toujours quelqu'un qui va les conseiller, qui va les rassurer, qui va leur dire que... Ils vont vous confirmer cette réalité-là, ils sont les confesseurs d'aujourd'hui, les psys et les coachs. Mais ce n'est qu'en Christ Jésus qu'on peut vraiment trouver le pardon, un pardon certain et durable. Le deuxième élément que ces versets nous enseignent concernant l'amour de Dieu, que nous sommes exhortés à imiter, c'est un amour non seulement qui pardonne, mais c'est un amour qui donne. Encore une fois, hein, la parole nous dit effectivement que Dieu est un modèle d'un tel amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Le péché, c'est pas très compliqué. Le péché, c'est un squatter qui vient dans nos âmes. Il vient squatter dans nos âmes. On n'a pas à le tolérer. Il faut l'évincer. Et pour dire bibliquement, il faut le mortifier. Oh, quel mot affreux! On dit le mot sacrifier aujourd'hui et les gens font du reflux gastrique. Imaginez maintenant lorsqu'on dit mortifier. Mais c'est réellement cela. Il faut mettre à mort le péché qui veut venir squatter dans nos âmes parce que nous sommes une nouvelle création. Ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la glorification puis la perfection en ce bon monde, hein? Mais il y a des péchés qui, manifestement, des péchés en vitrine, qui doivent disparaître et disparaître aussi rapidement que faire se peut. Et nous devons, dans ce combat-là, garder à l'esprit... Je me suis trompé de ligne. Le troisième enseignement que ce texte nous donne au sujet de l'amour de Dieu, que nous devons imiter, c'est que c'est un amour qui est vivant. Un amour qui pardonne, un amour qui donne, et aussi un amour qui est vivant. C'est un amour pratique et actif. Et ça nous amène à notre deuxième point. J'ai presque envie de dire que le premier point était presque introductoire. Il fallait toucher la grande question de l'indicatif, que nous sommes enfants de Dieu. Le deuxième point, les versets 3 et 4, veillons sur notre pureté. Ouf. Au chapitre 4, Paul introduit le thème du contraste entre les modes de vie chrétiens et non chrétiens, et la différence est on ne peut plus frappante. Hein? Et ce n'est pas sans nous rappeler des éléments très importants. Lorsqu'on parle d'être pur, on touche à une question, mon Dieu, je ne sais pas comment dire cela, elle n'est peut-être pas relative, mais elle n'est pas aussi simpliste qu'elle en a l'air. Hein, s'il suffisait de dire, ben, j'ai été pardonné, je n'ai plus de péché, puis il y a une réalité, nos péchés ont tous été expiés, pardonnés, mais on sait que dans notre vie de chaque jour, on pêche encore fréquemment, continuellement pratiquement. Alors, il y a comme un dilemme avec lequel on a besoin de composer. Cette semaine, ou la semaine dernière, Diane et moi, on lit les Évangiles avec J.C. Ryle, John Charles Wright, qu'on vous recommande d'ailleurs avec passion. Et on était sur le texte du Gadarénien. Souvenez-vous, le Gadarénien? Hein? Il n'était pas Jojo, le Gadarénien. Hein? Il se promenait tout nu dans les montagnes, il se blessait, il avait un vocabulaire assez particulier, il n'y a personne qui pouvait l'attacher, il se détachait, on le craignait, il hurlait. Hein? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un possédé. Il était complètement possédé, vous voyez. Et les gens le craignaient, n'est-ce pas comme on craint la peste. Et on sait ce qui est arrivé lorsqu'il a rencontré Jésus. Il y a eu un grand changement. Mais ce Gadarénien-là, il n'est pas venu au monde comme ça. Quand il est venu au monde, c'était pas un petit bébé qui cassait ses chaînes, puis qui criait partout, puis qui voulait battre tout le monde. C'est un petit bébé gentil qui souriait à sa maman, vous savez. Et qui regardait passer son mobile avec beaucoup de joie, avec un beau sourire. Un petit bébé qu'on appelait mon petit ange, mon petit chérubin, mon petit séraphin et tous les titres qu'on donne à nos enfants qui nous sont si chers. Mais il a grandi et avec l'évolution de son âge et de son corps, le péché a grandi aussi. C'est comme ça que ça se passe. Hein? La semence du péché est là, un petit peu comme les germes de verre au printemps dans les pommes. C'est pour ça que quand une pomme a un trou, parce que le verre est sorti, c'est pas parce qu'il est rentré, hein, c'est quand il est sorti. Alors, il y a un germe de verre déjà. Lorsque la pomme est là, lorsqu'elle est encore en fleur, il y a un germe de verre qui a été déposé par un moustique. Et la pomme se développe. Et le verre se développe. Et un bon moment donné, ben, plus il se développe, plus il a envie d'aller prendre l'air, hein, plus il a envie de sortir. Et c'est comme ça qu'il fait un trou dans la pomme. Mais c'est ce qui se passe avec nos vies, vous savez. À la chute, on est venu au monde avec le péché, dit originel. En Adam et Ève, il est là le péché. Il paraît beaucoup moins chez un enfant de 3 mois que chez un enfant de 40 ans, si vous me passez l'expression. Mais il va se développer et il va se manifester à l'extérieur aussi. Ben, c'est ce qui est arrivé au Gadarénien, vous voyez. Et c'est une cause perdue, somme toute. Et c'est un risque que tous les êtres humains courent de devenir ainsi. On ne se rend pas toujours à la posture du Gadarénien, mais on sait que c'est ce qui se passe dans nos vies. D'ailleurs, très souvent, lorsqu'on arrive à l'adolescence et qu'on commence à penser un peu à ce que nous étions avant, parce qu'on arrive à l'adolescence, un petit peu plus tard, on s'embarque dans une connaissance interdite, tiens, disons, qu'on appelle le péché. Et là, on dit, ah, ben quand c'est ça, on trouve ça plaisant au début, mais après on dit, ouais, mais il me semble que je me sentais mieux avant. Hein, il y a des petits regains de vie, à bon moment donné, à raison de la conscience, et on sent qu'on est de plus en plus enlacé par ce péché-là. Et on se demande comment on va s'en sortir. Même quand j'étais inconverti, j'étais directeur des émissions à CKML, à Mont-Laurier à l'époque, lorsque Jean-Pierre Ferland a sorti son long jeu que personne ne connaît, parce que vous êtes tous des jeunes à peu près, là, son long jeu jaune, sur lequel il y avait le Petit Roi. Ça vous dit quelque chose, le Petit Roi? Moi, j'étais pas chrétien, mais c'était venu me chercher, cette chanson-là. C'était venu me chercher dans mon être intérieur, et je vais vous dire comment je l'interprétais. Peut-être que je l'interprétais croche, là. Mais dans mon cœur et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme à son royaume, sur tous ses sujets, beau soulet. Puis un jour vint un vent de débauche qui emporta le roi de sous mon toit. Un jour vint un vent de débauche qui apporta le roi de sous mon toit. Et boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Et boule de gomme, serais-tu devenu un bomme? Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on sent à l'occasion, à travers diverses expériences de la vie? En fait, on fait tous ce genre d'expérience-là tôt ou tard. Certains le font plus intensément que d'autres, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on se rend vite compte que même lorsqu'on est encore chrétien, le péché n'est pas complètement disparu. Loin de là. Il y a ce qu'on appelle le péché rémanent. Hein? Et puis il est vraiment rémanent, il rémane. Hein? Il est encore très, 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 très présent. On a tellement besoin de vivre constamment à l'ombre de la croix. Le grand prédicateur écossais, le célèbre prédicateur écossais Robert McCain, disait « La semence de tous les péchés demeure dans mon cœur. » Et c'est tellement vrai. On a tellement besoin en constance de notre Seigneur et Sauveur. On a tellement besoin de comprendre ce que veut dire dépravation totale. Ça ne veut pas dire qu'on est aussi dépravé qu'on le pourrait, on a encore un peu de retenue, mais ça veut dire radical, c'est à la racine même de ce que nous sommes, et ça peut donner naissance à n'importe quel péché, même les plus abominables. On a qu'à regarder ce qui se passe dans notre existence aujourd'hui autour de nous, et on comprend que, hein, où ça peut mener. On a toujours besoin d'être à l'ombre de la croix. Quand notre fils est arrivé, là, vous avez élevé un enfant, c'est sérieux, hein? Là, vous dites, waouh, tu sais, on sait qu'on va être un modèle et que ça va être important pour lui, comment on va l'élever, les valeurs qu'on va lui enseigner et tout. Mais là, quand tu te regardes toi-même et tu te dis, oui, mais je ne peux pas en faire quelqu'un qui est mieux que moi, s'il est pire que moi, qu'est-ce qu'il va devenir? Et là, on se rappelle de la grâce du Seigneur. On se rappelle de la puissance de la croix, de l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est notre seule espérance en Christ Jésus. C'est extrêmement important, vous savez, de faire la différence entre le péché rémanent et le péché régnant. L'apôtre Paul, il va de deux affirmations qui nous donnent de mieux comprendre notre posture chrétienne. Romains chapitre 7, verset 17 nous dit « Le péché habite en moi. » C'est un chrétien qui dit ça. « Le péché habite en moi. » Fort heureusement, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en Galates 2, 20, il dit « Christ vit en moi. » Oups! On comprend facilement que ce ne seront jamais deux colocs qui vont vivre en paix. Il y en a un qui doit sortir et l'autre de plus en plus affirmé. C'est ça la sainteté. On fait progressivement sortir le péché pour que le Christ prenne progressivement la place. On doit être dans ce combat, on doit garder à l'esprit que le péché que nous combattons, et ça c'est extrêmement important si nous sommes croyants, le péché que nous combattons ne nous condamne plus. On se sent quand même attristé. Très attristé parce qu'on a laissé tomber le Seigneur, c'est l'impression que nous avons chaque fois que nous péchons. Mais il faut nous rappeler que ça ne nous condamne plus. Si ça se met à nous condamner, qu'on en fait un fixe, passez-moi l'expression, une obsession, là on tombe sous la loi et qu'est-ce qu'elle fait la loi? Elle excite encore davantage le péché en nous. Alors, il ne s'agit pas de prendre le péché à la légère, loin de là, c'est très sérieux l'histoire du péché. Mais il faut bien comprendre que c'est un péché qui ne nous condamne plus. Il y a des péchés qui disparaissent plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres qui vont perdurer plus longtemps. Il y en a d'autres qui sont plus inhérents à notre nature et qui ne disparaîtront pas nécessairement comme cela. Au chapitre 5, on retrouve ce même contraste entre les deux modes de vie. Paul ne parle pas seulement de changer de façon de vivre qui va se faire graduellement, mais plutôt de choses qui ne devraient même pas être mentionnées parmi les croyants. Là, on tombe dans les choses sérieuses et immédiates. Ces choses, dit-il, sont inconvenables et contraires à la bienséance, et ce sont là le lot des idolâtres. C'est là le lot des idolâtres. Il mentionne six éléments. Ce qu'il nous dit, en somme, c'est qu'il y a certains vices qui doivent impérativement, enfin, tous les vices, là, doivent être mis en famine pour qu'ils crèvent de faim, hein? Puis les vertus, eux autres, vont pouvoir prendre toute la place. Et le premier de ces vices-là, il parle de l'immoralité sexuelle. Il parle de l'impudicité. On ne tombe pas dans quelque chose qui parle à une personne ici et là. On parle à l'humanité tout entière lorsqu'on parle de sexualité, n'est-ce pas? C'est pas simple, la sexualité. D'abord, ça fait partie inhérente de notre être humain. Enfin, je n'irai pas trop loin parce que je sais qu'on est sur Internet. Il faut toujours se retenir. On n'est plus en famille. Mais enfin, Le mot grec qui est traduit par impudicité, par immoralité sexuelle, c'est le mot porneia que nous avons dans le grec ici, qui a donné en français le mot pornographie. Ça, la pornographie, bien aimé, on ne discute pas de cela. Il faut que ça disparaisse de nos vies. Point. Il ne faut même pas que ça apparaisse dans nos vies. On peut comprendre qu'il y a des péchés sexuels qui vont rester, particulièrement chez les gens célibataires. Bon, on n'entre pas dans les détails. Mais on peut comprendre que la pornographie, l'histoire d'aller sur Internet, d'avoir des toutes sortes de livres, des images pornographiques, ça doit impérativement disparaître de nos vies. Ça ne doit jamais, jamais être présent là où nous sommes. Le mot fait référence, bien sûr, à toutes sortes de choses, les relations sexuelles avant le mariage, hors mariage. Et dans les anciennes versions, on utilisait le mot fornication. C'est un péché tellement présent dans l'être humain depuis la chute que Paul le met en haut de la liste. Et ici, se rappeler qui on est des enfants de Dieu bien-aimés. On peut grandement, et ça peut grandement aider de savoir qui nous sommes. On n'a qu'à penser à Joseph. Joseph, en Égypte, qui a commerce avec la femme de Potiphar. On se souvient que Joseph, en Égypte, était quand même très bien traité. Et il y a un danger à être bien traité. On le sait, nous, en Occident, on vit dans la facilité. On est bien traité, puis c'est un grand danger. Quand on est bien traité, on ménage rien. On peut tout se permettre, ou presque, hein? Il était très, très bien traité. Il était le maître de la maison. Le Potiphar l'avait mis maître de tous ses biens. Et voilà que Mme Potiphar vient se mêler un peu du dossier. Et, bon, on sait ce qui s'est passé. Elle voulait avoir des relations avec Joseph, qui refuse encore et encore et encore. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous lisons en effet au verset 9 du chapitre 39, Joseph de dire, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et... Il, ton maître, ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Comment pécherais-je contre Dieu? Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Il y a des choses qui se contrôlent, qui ça va prendre plus de temps à maîtriser. Mais des choses comme celle-là, ça se maîtrise sur le moment. Ça se maîtrise dans la préparation, dans la prière, dans la lecture, dans la prudence. Il faut constamment être sur nos gardes. Pensons à David. David devant Goliath qui nous apparaît être un surhomme. Ah, quel bonhomme, n'est-ce pas? Ça va faire un homme de Dieu. Quel pasteur ça va être. Hein? Et là, alléluia. Jusqu'à ce qu'il se retrouve sur son toit avec un bon petit verre de rouge par un clair de lune et qu'il voit Bathsheba en train de se baigner. Hein, ça a mal tourné. Voyez-vous, héros d'un côté, zéro de l'autre côté. C'est ce que nous risquons d'être. Alors, il y a quelque chose d'évident dans la fuite de la tentation. Il ne s'agit pas uniquement de résister, mais de se sauver de la tentation, de la fuir, la tentation. Le deuxième élément qui est mentionné, c'est l'impureté. Le mot inclut les péchés de nature sexuelle mentionnés tout juste avant, mais s'étend à toutes les formes de souillure sexuelle. Vous savez que les Grecs, parmi lesquels vivaient les Éphésiens, les Grecs approuvaient ouvertement toutes sortes de pratiques sexuelles, hein, comme la prostitution et l'homosexualité. En fait, à Athènes, au grand temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour avait été érigée avec les profits des bordels, avec les profits des maisons closes, purement et simplement, qui avaient été établies en vue de cette construction-là. Pour les Grecs, ça n'avait strictement rien d'étrange. On voyait toutes les orientations sexuelles comme licites. Ça vous dit quelque chose? Heureusement qu'on n'est plus comme ça. On est bien trop comme ça. Notre société en voit encore plus comme cela. Hein, on parle maintenant des transgenres, on parle de tout ce qui peut se dire. Paul affirme que ce qui est parfaitement acceptable à la société en général ne devrait même pas être mentionné parmi les chrétiens. Ça commence souvent par le discours. Hein? Ben, c'est les sens. Hein? L'ennemi agit beaucoup, beaucoup par nos sens. Ce qu'on entend, ce qu'on regarde, ce qu'on met dans nos poubelles, c'est important. Hein? Ce qu'on met dans nos yeux, c'est important. Ce qu'on met dans notre cœur, c'est important. ce qu'on touche, ce qu'on entend. L'autre élément, c'est la cupidité. On dit souvent que la convoitise et la cupidité sont les grands vices de notre temps et on n'a rien inventé, pour ainsi dire. Paul dénonce ça aussi. Après avoir parlé de la convoitise sexuelle, il parle de la cupidité. La cupidité, c'est ce désir intense, ce désir de posséder, de vouloir toujours avoir plus. Mon papa disait, quand j'étais jeune, le vôtre le disait peut-être aussi, « Plus le diable en a, plus il en veut. » Hein, c'est une belle réalité. Le diable est certainement très cupide. Il est le père du mensonge, il est aussi le père de la cupidité. La cupidité, c'est cet amour des possessions, cet amour de l'avoir, cet amour de l'argent pour l'argent lui-même et pour tout ce qu'il peut apporter. Le Seigneur Jésus avait certainement ce vice à l'esprit lorsqu'il déclare à Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il y a un choix qui va se faire. On avait un bel exemple de cela avec Balaam, hein, dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Paul dit que la personne immorale, impure ou cupide, au verset 5, est une personne idolâtre. Le prochain péché, c'est l'obscénité. L'obscénité, les paroles déshonnêtes. C'est le mot qui sert de pont dans cette liste entre les actions indécentes et inappropriées et les propos indécents et offensants dont Paul va maintenant traiter. Une personne obscène n'a aucun égard pour les standards. On pense uniquement à l'humour contemporain. Hein, pour être drôle, on va sortir des vulgarités, des mots grossiers, et le reste. Rien ne commande son respect. C'est ainsi que ses actions ne peuvent non plus être empreintes de respect. Et ensuite, il en vient aux propos insensés. Le mot grec pour cette expression-là, il est facile à retenir. Morologia. Moros, d'abord, la première partie, c'est moros, qui a donné moron. Je pense qu'on l'emploie en français, un moron, un moron. On ne l'emploie pas en français, il me semble qu'on l'emploie en français. Enfin, on l'emploie en anglais, un moron, on sait c'est quoi. Alors, ça vient de cette particule-là, morologia. Et le mot décrit quelqu'un qui parle en insensé. Le problème n'est pas avec son intelligence, mais avec sa morale. Ou sa moralité. Le mot fait référence à quelqu'un qui prend les standards de comportement à la légère, trouvant amusant, courageux, admirable, n'est-ce pas, d'aller à l'encontre de ce qui est noble et digne. C'est ce que fait notre télévision dans ses téléromans, c'est ce que fait souvent de fois le cinéma contemporain, c'est ce que fait les émissions d'humour, etc., les entrevues, et encore. Et c'est la façon la plus efficace de détruire toutes les valeurs de la société. Il y a un temps où on disait que pour choisir un président, même en politique, pour choisir un président, il fallait choisir quelqu'un qui avait une éthique. Il devenait le modèle du pays. C'est tout à fait normal. Si vous avez un président qui est grossier, qui est vulgaire, qui n'a pas de respect pour autrui, écoutez, ça va dépeindre très rapidement sur la population, même si c'est un bon président. Hein, son attitude va facilement... C'est la même chose pour un professeur, la même chose pour tous les professionnels qui servent un peu de modèle, même les sportifs, hein, qui servent de modèle aux autres, c'est d'une extrême importance qu'ils réalisent qui ils sont, des gens qu'on va tenter à reproduire et à imiter. Bien ensuite, les plaisanteries vulgaires. C'est une expression très près des deux expressions précédentes. Cependant qu'ici, l'emphase est sur la vulgarité. En fait, ces trois expressions font référence à un esprit tordu qui s'exprime dans des conversations vulgaires. Maintenant, quel est le côté positif de tout cela qu'on retrouve dans le verset? Bien, dans tout ceci, que doivent faire les chrétiens en contraste? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question, et l'une d'elles, c'est par la liste des vertus correspondantes que Paul nous donne au verset 9, qu'on va voir au cours des prochaines semaines, si Dieu nous prête vie. Pour ceux qui sont nés nouveaux, bien sûr, hein, et nous verrons plus tard. Mais il y a une approche qui nous permet de caractériser la conduite chrétienne et que Paul met en contraste avec les vices qu'il vient de mentionner. Verset 3 et particulièrement le verset 4. « Que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On a certainement... Je me permets de croire que nous n'avons pas ici là, des super débauchés, mais je me permets de croire que nous avons tous besoin d'entendre ce message-là. Comme on a besoin constamment de répondre par des actions de grâce. Il y a les choses qu'on dit, puis il y a les choses qu'on se dit à l'intérieur, puis qui ne sortent pas nécessairement par la bouche, mais qui sont encore là dans le cœur. Répondre par des actions de grâce. Des actions de grâce, pourquoi? Parce que pour Dieu, pour la vie, pour le Christ, pour la providence, pour les promesses qui sont les nôtres, mais aussi pour tous ces dons. On en a tellement de dons. Malheureusement, mal utilisés deviennent des vices. C'est ça, le mal. Le mal, ce n'est pas l'absence de bien, c'est une déformation du bien. C'est pour ça qu'on parle constamment de réforme, reprendre la forme. Dieu nous a fait des dons extraordinaires. Les possessions, le discours, le sexe, la vérité, tout ça pour qu'on l'utilise à sa gloire. Une fois qu'il y a des déviations, ça devient des vices, ça devient de la corruption. Et ça m'amène à mon troisième point, affermissons notre sécurité. Les versets 5 à 8. En bout de ligne, cette discussion-là fait ressortir une importante réalité. Les chrétiens sont la lumière du monde au sein d'un monde de ténèbres. Ils se doivent d'être des éléments illuminants. Et ce, en raison du fait qu'ils ont eux-mêmes été illuminés. Verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. » Dans le Seigneur, marcher comme des enfants de lumière. Ce qui est d'une extrême importance dans l'affirmation de Paul ici, c'est ceci. Paul ne dit pas simplement qu'avant leur conversion, les chrétiens étaient dans les ténèbres et que maintenant, depuis leur conversion, ils sont dans la lumière. C'est une forme de réalité, mais c'est nettement incomplet. Non. Quoi que ce soit vrai. Il fait référence à quelque chose de plus profond. Ils étaient ténèbres. Et maintenant, ils sont lumière. Alors, c'est beaucoup plus qu'une exposition. C'est une question d'être, d'essence même, d'ontologie. Ils sont maintenant lumière. L'apôtre indique un changement profond en eux, pas seulement dans leur environnement, mais dans leur être intérieur même. Non seulement étaient-ils dans les ténèbres, mais ils étaient eux-mêmes ténèbres. Les ténèbres étaient en eux. Les ténèbres s'obscurcissent les unes les autres, alors qu'il en va tout autrement de la lumière. Et ça fait toute la différence. Si ce n'est qu'une question de chercher la lumière ou de vivre dans la lumière, alors le christianisme n'est pas très différent des autres religions ou même des philosophies courantes de nos jours, hein, qui n'offrent qu'à peu près pas d'espoir. Psaume 36, verset 10 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous devenons lumière. » Donc, puisque devenir chrétien implique un changement d'état, de ténèbres à la lumière, alors la présence chrétienne dans le monde est elle-même espérance, alors que nous nous tenons contre les ténèbres. Il y a plusieurs années, mon épouse et moi, on devait aller où, donc, maman, tu viens-tu? On devait aller en mission quelque part en Afrique. J'oublie le pays. C'était pas le Sénégal, c'est l'autre avant. Au Libéria, je me souviens plus trop. Oui, quelque chose du genre. On a failli y aller à 3-4 fois missionnaire en Afrique, mais le Seigneur a permis autrement. Mais je me souviens que le responsable des missions nous avait dit, au moment où on se parle, le seul élément qui empêche la guerre civile dans ce pays-là, c'est la prédication de l'Évangile dans la station de radio où je devais aller travailler. Qui proclamait les valeurs de l'Évangile. Il y avait uniquement la pensée chrétienne diffusée et les chrétiens qui la recevaient et qui la colportaient, qui empêchaient vraiment la guerre civile de commencer. Alors, nous sommes lumière, vous savez. On ne réalise pas toujours à quel point on peut avoir un impact chez le voisin. ne serait-ce que chez le voisin. Ça vient de changer la dynamique de sa vie familiale, peut-être, et de son entourage, ou de son attitude au travail. Elle reste. Il y a quelques années, au NRB, le National Religious Broadcasters, c'est une conférence qui a lieu à chaque année. Ça dépend des pays et ça regroupe beaucoup de gens là qui sont dans la radiodiffusion. Je suis allé un jour à Dallas et c'est très impressionnant et c'est vraiment très bien. Mais enfin, il y a quelques années, donc ça s'était passé à Washington D.C. et le président généralement parle dans ces rencontres-là. Toujours important, le président américain vient faire un discours. Et le président, je ne sais pas qui était président à ce moment-là, a pris la parole et il a terminé en citant Jean 3,16. Alors là, les gens se sont mis à applaudir, étaient presque extatiques, parce que c'est des radiodiffuseurs chrétiens. Ils étaient très contents d'entendre le président citer Jean 3,16. Et est venu ensuite Charles Colson, que plusieurs ont certainement, sans le connaître directement, n'ont entendu parler. Et Charles Colson, qui connaissait par expérience les limites et les séductions de la vie politique, il s'est dit heureux du discours du président, mais il a ajouté « Nous devons nous rappeler que le royaume de Dieu n'arrivera pas sur Air Force One. » Belle réalité. On s'attend beaucoup des politiques. On s'attend beaucoup de nos politiciens. Et même si Air Force One vole haut, et même lorsque vous êtes dans un petit avion, comme ça m'est arrivé un jour lorsque j'allais voir la Statue de la Liberté, vous êtes sur le point de vous envoler au-dessus de la statue et qu'Air Force One arrive et qu'on vous fait vous tasser, il faut vous débarrasser le corridor, il a l'air bien, bien puissant. Le royaume de Dieu ne viendra pas par Air Force One. C'est une grande vérité dans son sens ultime. Le royaume de Dieu n'arrive qu'en Jésus-Christ. Dans un premier temps, prenant place dans des cœurs d'individus et ultimement au retour du Christ lui-même. Le royaume de Dieu a-t-il pris place dans nos cœurs? Le christianisme ne nous demande pas de professer la foi seulement, de confesser la foi seulement, même les plus belles confessions qui soient, mais il nous demande vraiment si nous avons eu le Christ dans nos cœurs. Si on est venu au Christ Jésus, si on lui a remis tous nos fardeaux, tous nos péchés, tous nos embêtements, toutes nos limitations, et si on cherche à le limiter et à vivre comme lui, si on recherche la sanctification qu'il a donnée aux vrais croyants, il leur a déjà donné et il leur demande de le rechercher. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Si tel est le cas, cette portion de l'Écriture nous dit comment cela se manifeste, comment cela se dégage, parce que nous sommes ce que nous dégageons. Amen.